Monseigneur Robert Le Gall, avant tout, vous êtes un moine et un moine bénédictin. Qu'est-ce qui vous a saisi d'abord? Est-ce la liturgie, la vie monastique, Saint-Benoît?
Curieusement, ce n'est pas la règle de Saint-Benoît qui m'a d'emblée attiré pour la vie monastique bénédictine, c'est plutôt la liturgie, comme vous le pressentiez dans votre question. Je suis tombé dans un monastère sans avoir été préparé particulièrement à vouloir cette vie. Je souhaitais être prêtre diocésain. Et donc j'étais un petit peu orienté dans le fond de mon cœur vers le sacerdoce. Et après 38 ans de vie monastique, me voilà maintenant dans la posture de vivre ce ministère de prêtre diocésain, d'évêque diocésain. Ce qui m'a séduit et m'a mené à dire oui à la vie monastique, c'est par le biais de la liturgie.
À l'époque, vous êtes rentré en quelle année ?
Je suis rentré en 63.
Quels ont été les saisissements, les fascinations que vous avez vécues à travers la liturgie ?
Et c'est 63, vous voyez déjà la date. 62, c'est l'ouverture du Concile Vatican II. Nous allons bientôt fêter le 50e anniversaire de cette ouverture dans deux ans, 2012. La constitution sur la liturgie n'était pas encore promulguée car elle a été en 64. Et je suis rentré à l'abbaye dans le contexte d'une liturgie qui était entièrement en latin, et y compris les lectures. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans cette liturgie telle qu'elle était à l'époque. Et certes, on pouvait se poser des questions de renouveau de la liturgie, elle se posait de fait, mais moi j'ai reçu la liturgie telle qu'elle était à l'époque.
Et vous l'avez reçue et vous avez pu entrer dedans.
Véritablement,
le latin
oui.
n'a pas été une barrière pour entrer dans
du
le
tout,
sens.
Puisque je venais de finir mon secondaire et que j'ai fait du latin pendant tout mon secondaire, et que avant d'entrer au monastère, j'ai même fait les lettres supérieures, commencé les lettres supérieures, la cagne, et on faisait du latin à outrance. Donc le latin n'a jamais été un problème pour moi. J'ai 64 ans, et donc ça ne vaut pas pour les générations actuelles, mais le latin a été pour moi et reste pour moi quelque chose de très important.
Alors c'est étonnant en vous écoutant parce que vous venez de dire que votre première vocation c'était de devenir prêtre, un prêtre diocésain.
Absolument.
Vous êtes maintenant évêque de Toulouse. Vous dites que c'est la liturgie qui vous a fasciné dans le monde bénédictin.
Oui.
Et vous faites partie de la congrégation pour le culte divin. On a l'impression que vraiment votre vie suit
des axes.
Et un troisième axe qui me paraît important, c'est votre devise abbatiale. Quelle est-elle ? Racontez-nous comment vous l'avez choisie et ce qu'elle signifie.
Cette devise, c'est « De unitate et trinitatis », qui se trouve d'ailleurs sur mon anneau, là, ce qui veut dire en bon français « à partir de l'unité de la Trinité ». C'est une formule un petit peu courte, bien sûr, parce que le mot « Trinité » n'est pas le mot le plus important, est un mot tardif, si on peut dire la Trinité. Et ce qui est important, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de qui nous sommes baptisés, que nous adorons à chaque fois que nous faisons une doxologie à la fin des psaumes, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qu'on fait le signe de croix, et quand singulièrement nous offrons au Père le corps et le sang de son Fils dans la doxologie de la prière eucharistique, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De unitate trinitatis, c'est une formule qui résume une formule conclusive du grand porche des enseignements de Vatican II. C'est-à-dire, à la fin des quatre premiers numéros de la constitution phare de Vatican II, qui est la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, le numéro 4 termine par une citation de saint Cyprien, évêque de Carthage et martyr, disant « Ainsi l'Église est-elle, pour reprendre la formule de saint Cyprien, ainsi l'Église est-elle le peuple unifié à partir de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Génial, vraiment génial, puisque cette formule de Saint-Cyprien, qui est magnifique en latin, le peuple unifié à partir de la source de toute unité, et qui est l'unité des trois personnes divines. Et autrement dit, c'est un résumé extraordinaire, cette formule de Saint-Cyprien, de la grande prière de Jésus avant sa passion, au chapitre 17e de Saint-Jean. « Qu'il soit un comme nous sommes un, toi en moi, moi en toi, qu'il soit parfaitement un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. »
Alors cette unité, Monseigneur Le Gall, je crois qu'elle vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette devise ?
Je crois que chacun est totalement libre de choisir la devise qui lui tient à cœur. Dire que j'ai choisi, c'est un mot que j'emploie peu souvent, choisir, comme pour la vie monastique ou comme l'appel à la vie sacerdotale. Je ne dirais pas que j'ai choisi.
Vous l'avez reçu.
Voilà, j'ai été choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Que vous alliez au parti du fruit, que votre fruit demeure. Et je crois que l'acte le plus fondamental d'une vie humaine, ce n'est pas de choisir, c'est de consentir. C'est de recevoir, comme vous dites. Par exemple, dans le mariage, là aussi, quand un homme et une femme donc, décident de vivre ensemble, ce qui fait qu'ils sont mariés, et devant Dieu, c'est qu'ils disent un oui. Ce n'est pas le choix entre plusieurs solutions. Est-ce que je prends celui-là, celle-là, etc. Non, un jour, c'est vraiment quelqu'un. Il ne reste plus que le oui, qui est le plus radical. Alors, de même, ma devise, je ne l'ai pas choisie. Il est vrai que j'avais commencé, après mes études à Fribourg, en Suisse, où le père Abbé, mon prédécesseur, m'avait envoyé un cours de liturgie que je faisais d'un point de vue dogmatique. Et donc, j'essayais d'expliquer la liturgie, d'un point de vue théologique, de mon mieux, dans cette profondeur-là. Et ce qui m'a paru le plus important, c'est l'action de Dieu. C'est ce que fait Dieu.
L'œuvre que fait Dieu dans la liturgie, l'œuvre que fait Dieu dans nos cœurs.
Et voilà, et que nous faisons avec lui. Mais ce qui est premier, c'est ce que fait Dieu. Donc, cette devise, je l'ai reçue, puisque dans l'exposé que j'essayais de faire de la théologie de la liturgie, revenait cette citation de Saint-Cyprien dont nous venons de parler.
Tout naturellement, elle vous est montée au cœur.
Ah, j'ai pas eu de choix. J'ai eu à consentir, là encore. C'est imposé à moi, imposé avec douceur, les suavités, mais plénitude aussi.
Consentir est un mot derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses. Oui. Nous sommes à l'approche de la grande semaine, la semaine sainte. Comment est-ce qu'on peut dire que le Christ consent à sa passion? Comment est-ce que nous, à la suite du Christ, nous pouvons consentir aussi?
Votre question va loin, comme tout ce qui concerne précisément le consentement. Nous célébrions récemment la fête de l'Annonciation. Et j'ai revêtu la chasuble de mon ordination épiscopale à Mende, en Lozère. Et les textes, tous les textes de l'Annonciation, ils disent « Je suis venu, Seigneur, pour faire ta volonté ». C'était dans le psaume. C'était dans la deuxième lecture de l'Épître aux Hébreux. Je suis venu pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Et mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Et le Seigneur a manifesté dans son agonie au Jardin des Oliviers comment sa volonté humaine, qui ne pouvait pas par nature vouloir la souffrance, nous ne sommes jamais invités à vouloir la souffrance pour elle-même, jamais, mais a été invité à unir cette volonté humaine ou à conduire sa volonté humaine dans le sens du dessein du Père, qui n'est pas un dessein, bien évidemment, de faire du mal, et surtout à son fils unique, mais le dessein du Père, c'était de montrer à l'humanité, à travers son bien-aimé, son fils bien-aimé, que combien l'amour du Père va jusqu'au bout.
Aujourd'hui, c'est un mot qui quand même peut rebuter, consentir, parce que c'est comme si on mettait son désir, son besoin un petit peu en veilleuse. Alors que dans le consentement, il y a une dynamique, il me semble.
C'est tout à fait vrai. En effet, il peut y avoir une mauvaise interprétation du consentement, en ce sens que l'on n'aurait pas de volonté propre, il n'y aurait pas de volonté personnelle, ou que l'on suit donc sans personnalité. Alors que le mystère même de Dieu, tel que Jésus nous l'a révélé et que l'Esprit Saint nous le fait sentir, c'est que vraiment les personnes divines sont totalement distinctes et parfaitement distinctes l'une par rapport à l'autre, mais que l'une et l'autre ont une même volonté, un même dessein.
Est-ce que le consentement peut faire grandir la volonté?
Je crois que c'est par le consentement qu'une volonté grandit. Et on rejoint un autre mot qui fait souvent peur quand on parle de ça, c'est le mot obéissance.
Obéissance. Qui vient en fait du mot écoute.
C'est pas seulement une écoute passive, mais c'est une écoute active, en ce sens que ob a audire. En latin, c'est audire, c'est écouter, auditio, l'écoute. Mais c'est le préfixe ob en latin signifie qu'on va au-devant, de manière active, de manière alerte, joyeuse, aimante. Donc, l'obéissance, contrairement à ce qu'on évoque quand on emploie ce mot, n'est pas quelque chose de passif ou d'inéluctable ou bien de forcé. L'obéissance, c'est au contraire, c'est aller au-devant de celui qui nous aime et que nous aimons. D'ailleurs, quand on y réfléchit, le mot consentir ou consentement, c'est sentir avec. C'est le sentiment, mettre son sentiment en lien avec celui d'un autre. Le consentement suppose une liberté, un acte de volonté qui se fait avec un autre.